Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
Nicole Gibault.
J'en ai un ras-le-bol de ces gens-là.
À mon sens, c'est de l'intimidation.
Geneviève Peterson.
Si sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper.
La rencontre.
Ouais, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
Oui. C'est le juge.
La rencontre Gibault-Peterson.
Salut, Nicole.
Bonjour Geneviève.
Bon, on commence notre discussion aujourd'hui avec cette histoire. Un Québécois qui aurait utilisé sa compagnie de transport pour importer des États-Unis de la cocaïne, des quantités quand même assez importantes de cocaïne qui auraient été cachées dans des poids lourds. Il a été arrêté à la demande des autorités américaines. On doit quand même son arrestation là visiblement à un chien dressé pour reconnaître les odeurs de drogue, un chien renifleur, là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc voilà, il s'est fait prendre.
Oui, puis c'est vraiment une histoire qui est digne d'un film. D'ailleurs, on a déjà vu.
Oui, c'était tout qu'un stratagème là, qui avait été mis en place.
Ben, tout à fait. Puis il faut vraiment avoir des nerfs solides là, pour penser que, tu sais, parce que j'entendais des gens qui disent, moi, à chaque fois que je traverse aux douanes, j'ai rien à me reprocher, mais je suis tout le temps un peu nerveux. C'est sûr qu'on a tout le temps, parce que c'est le genre de question. Imagine quand on a des 2, 3, 400 kilos de cocaïne à traverser. Puis lui, il utilisait apparemment des chauffeurs, mais mm-hmm. quand tu dis là, que tu livres 200 kilos, et puis qu'on te donne 50 000, ben, c'est assez alléchant. Puis c'est sous le temps, c'est exactement pour ça, c'est l'appât du gain. Alors malheureusement, là, ils se sont fait prendre, oui, une demande d'extradition, mais c'est parce que une demande d'extradition, si elle est accordée, puis normalement, là, je suis pas spécialiste du tout là-dedans, là, mais prenons pour acquis qu'elle va être accordée, là. Si elle est accordée et qu'il est trouvé coupable aux États-Unis, on parle pas de sentence du Canada, là. On parle vraiment en matière de 200, puis 300, puis 400 kilos, là. Et que ça va être long en prison aux États-Unis. Ça, c'est certain. Parce que c'est des quantités massives. On parle pas là, de quelques petits sachets ou quelques petits...
Mais comment ça se passe dans ce temps-là? C'est qu'il est arrêté en sol canadien puis on l'extrade vers les États-Unis?
Oui, il faut des demandes. Comme un peu, on a vu dans Huawei là avec...
Oui.
Alors, c'est des demandes d'extradition, puis là, on va faire la démonstration que c'est nécessaire, puis que le crime était commis. Puis tout le détail, je le connais pas, là, mais je sais que c'est par de cette façon-là. Et ça prend, oui, il faut que ça soit accepté, l'extradition, de toute évidence, puis il y a certains critères respectés. Et oui, il a été trahi par un chien dépisteur, Scooby. Alors, on doit le tout à Scooby, qui a senti la cocaïne. Et c'est parce qu'aujourd'hui, là, je peux pas comprendre qu'on... C'était assez facile, selon ce que je peux voir, là. C'était une cache, mais c'était en dessous d'un faux plancher, il me semble que...
Non, mais ces chiens-là, Nicole, là, ils sont absolument incroyables. Anecdote qui est pas en lien avec la drogue, là. Évidemment, à un moment donné, j'étais en transit dans un aéroport européen et je ne sais pas, j'avais mangé une barre tendre à un moment donné, là, je me rappelle même plus quand, puis c'était resté dans une poche d'une de mes valises. Mais on parle d'un emballage, Nicole, OK? Il n'y avait rien dans l'emballage, là. C'était probablement que je ne trouvais pas de poubelle. J'avais mis cela. Je me promène dans l'aéroport et le chien, c'était un petit chien teckel, s'était mis à gratter ma valise frénétiquement. Puis c'était un chien pour... j'avais une coulée de sueur parce que même si tu n'as rien à te reprocher, tu te demandes...
Ça, c'est
tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu dis, hey, y a-tu quelqu'un qui a mis quelque chose dans ma valise? Et tu te mets à paranoïer. Mais c'était le papier de bartan. C'était ça qui avait flairé
voilà,
ce chien-là.
C'est vraiment des chiens entraînés. Puis pour la drogue, en plus, c'est encore plus efficace.
Nous, on est les amis des chiens, donc on aime les anecdotes canines.
Oui.
Surtout quand les canins sont au service de la justice. La fameuse question là, de la langue au sein de la Cour suprême. Là, on demande que la Cour suprême publie ses décisions en français et en anglais. Puis c'est vraiment un sujet qui revient régulièrement ces temps-ci. Là, les décisions, les plaidoiries, avoir droit à un procès dans sa langue, puis qu'on ait les deux langues au Canada. Là.
Oui, mais faut dire que depuis très longtemps, fort longtemps, les décisions sont dans les deux langues.
Mm-hmm.
Quand on va sur le site Internet de la Cour suprême, il n'y a pas vraiment beaucoup de décisions qui sont pas traduites. Mais cette avocate, chapeau, Marie-André Denis Boileau, a fait cette demande-là. Et elle a gagné devant le commissaire là, aux langues officielles. Et elle a gagné son point. Puis je trouve ça extrêmement intéressant. Elle, on reconnaît tous là, que moi, pendant des années, j'ai jamais eu de problème à trouver des décisions de la Cour suprême en français et en anglais. On a d'aller d'un côté ou de l'autre là, sur la page de la Cour suprême. Mais c'est beaucoup plus pour les anciennes décisions. Puis il y a des décisions qui sont absolument fondamentales en droit. Et l'exemple qu'elle donne, puis ça, les gens vont comprendre.
Ouais.
Au Québec, on a un code civil, mettons, là, tu sais. Mm-hmm. Alors, c'est codifié. On dit que notre droit est codifié. En Ontario, la common law, ben, on y va par jurisprudence. Alors, toutes les décisions qui sont rendues font force de loi, là, parce que c'est ça, la jurisprudence. Il n'y a pas comme un article dans le code comme nous autres, là. C'est différent, surtout pour la responsabilité civile, là. Il n'y a pas ça. Alors, on suit, et les avancées en jurisprudence. D'où c'est tout à fait nécessaire de partir du début pour quelqu'un qui fait ses recherches, là. Mais souvent, c'était strictement en anglais, très peu en français, mais il y en avait quand même. Alors, c'est au niveau de l'historique, des causes.
Fait qu'on a tout le dossier, finalement, dans les deux langues, au lieu de seulement la décision. C'est ce que je comprends.
Normalement, ça devrait fonctionner. Je pense qu'on n'ira pas à l'encontre de ça, là. Comme je dis toujours, on n'est pas contre la vertu, quand même, là.
Mm-hmm.
Alors, mais ça va être tout un travail.
Bon, donc chapeau à cette avocate-là,
oui.
Qui quand même s'est acquittée de cette lourde tâche bureaucratique.
Oui, absolument.
Ceux qui ont vu le documentaire La parfaite victime, Nicole, auquel tu participes, un documentaire qui a été fait avec Monique Néron et Émilie Perrault, ont pu voir des témoignages de victimes là où on condamne un peu le fait que la Cour souvent met en cause les versions des victimes, soulève les contradictions, les trous de mémoire. Puis ce qui est intéressant de comprendre dans ce film-là, c'est de voir des expertes en victimologie témoigner, à savoir que ces trous de mémoire-là, ils sont normaux quand t'es victime d'un trauma. Puis on en a déjà parlé, toi aussi, là, ici avec moi, à maintes reprises. Dans cette cause-là, quand même, c'est assez particulier ce qui se passe. On a le témoignage d'une victime alléguée d'un ex-policier. C'est un témoignage concernant des événements qui auraient eu lieu il y a 30 ans, donc 30 ans après les faits. Là, on dit que cette victime-là s'est défendue avec aplomb, mais ce que je trouvais intéressant de discuter, c'est que elle dit, la présumée victime, qu'elle se rappelle très, très bien des gestes, mais pas vraiment, par exemple, s'il l'a retenu par le bras ou non, ou d'autres détails, là. Mais elle dit, une chose dont vous pouvez être certain, c'est que je me rappelle la façon dont il a rentré ses mains dans mon pyjama. Je trouvais ça quand même assez fort comme témoignage.
Oui, puis je vais ajouter que j'ai déjà entendu maintes et maintes fois la question.
Oui.
Vous vous souvenez qu'il est retenu par un bras? Oui, vaguement, mais lequel? Est-ce le droit ou le gauche? Combien de temps? Combien de secondes? 30 ans passés. Alors, j'ai trouvé ça cocasse, la lecture de cet article-là, cocasse dans le sens que elle a répondu de façon très claire, nette et précise, puis je souriais parce que il me semble que je l'entends, là, tu sais, dire, mais écoutons, non, je me souviens pas de telle affaire, là. Est-ce que vous tu sais.
Oui, la couleur des rideaux, c'est un plancher de bois franc ou de la céramique, peut-être qu'on ne sait pas, là.
C'est du minutieux détail qui est d'une importance, très peu d'importance pour ces victimes alléguées. Puis je pense qu'elle l'a décrié haut et fort. Mm-hmm. Puis les deux bras croisés, ça me fait tout le temps sourire parce que c'est fermé. Non, je m'en souviens pas. Et c'est, non, j'ai pas de ça que je me souviens. Je me souviens de l'agression. Je me souviens pas du détail. Je me souviens pas si j'ai perdu un bouton. Je me souviens pas si j'en ai perdu deux, la couleur.
Mais c'est fou, Nicole. Cette femme-là qui est maintenant dans la cinquantaine, là, évidemment, les faits là auxquels on s'attarde dans cette cause-là, elle avait 16 ans à l'époque et c'est fou parce que là, on parle d'un policier à qui elle aurait confié des abus dont elle aurait été victime dans sa famille, qui l'amène dans une pourvoirie pour l'agresser à son tour. Si ça s'avère, c'est
vulnérabilité.
Ouais, c'est ça. Ça ajoute encore plus aux sordides de cette affaire-là.
Et on entend toujours, puis ça veut pas dire que dans son témoignage, puis là encore une fois, là, j'étais dans cette place, dans cette position-là longtemps. Oui. Ça veut pas dire qu'on va pas soulever un doute raisonnable pour d'autres motifs. Là, on a un article de journal qui nous décrit une partie,
oui.
Mais ça veut pas dire que le droit change et il y a pas à changer. La personne est présumée innocente, le doute raisonnable peut être appliqué, mais il faut qu'il soit justifié. Alors on a vu dans différentes causes comment on justifie le doute raisonnable. C'est pas toujours la même chose, même si c'est un principe fondamental pour tout le monde. Mais ici, on voit que c'est sûr qu'on va alléguer que, bon, c'est invraisemblable, ça tient pas la route, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut alléguer d'autre, là, en défense? Ben, ça va vraiment dépendre du juge ou de la juge qui a entendu la cause et de se faire une tête sur la crédibilité. Et ça lui appartient.
Bon, on verra jusqu'où cette histoire va aller, mais je suis contente de voir qu'on de plus en plus on est ouvert au niveau des juges justement et qu'on comprend davantage le qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire quand il est question d'une agression sexuelle, parce qu'avant ça minait la crédibilité des témoins, puis là je comprends que maintenant ce n'est plus tellement le cas, du moins pour la majorité des juges, je l'espère. Merci Nicole, bonne fin de journée, à demain.
Bonne fin de journée, au revoir, à demain.